J'ai eu des poupées noires. Je dis ça comme si c'était banal, mais en fait, il y a énormément de gens et énormément de filles noires et d'hommes noirs qui n'ont jamais eu de poupées noires.
Et la force des réseaux sociaux à ce niveau-là, je pense que ça a été de me donner parfois une safe place.
On doit déconstruire les autres, et pour déconstruire les autres, on doit être un minimum déconstruit soi-même. En fait, grandir, c'est déconstruire pour moi. C'est aussi simple que ça.
À la ZEP, on relaie des témoignages, des histoires, des vécus, mais parfois on les compile. Bienvenue sur Sample, le podcast qui mélange, superpose et confronte les voix des jeunes pour donner à entendre notre société. Regarder en face ses privilèges et ses erreurs pour réussir à les balayer définitivement. Apprendre à embrasser ses singularités, mais aussi et surtout celles des autres. C'est ça que l'on attend d'une personne déconstruite. Mais que cache ce mot, ce concept, qui est devenu le passage obligé pour se joindre aux luttes actuelles pour l'égalité? Qu'est-ce qui motive cette démarche militante? Shani Lei et Pauline, deux jeunes femmes de 22 ans, sont toutes les deux passées par cette étape et nous racontent aujourd'hui leur histoire déconstruite.
Je pense que c'est en partant de chez mes parents pour faire mes études supérieures que j'ai commencé vraiment à découvrir puis à m'intéresser au féminisme. Ma déconstruction, elle s'est accélérée par le fait que j'arrive sur Paris après avoir vécu toute mon enfance et mon adolescence dans une ville de province dans le nord de la France. Avant ça, pour moi, le féminisme, c'était vraiment un mot péjoratif, c'était presque une insulte. Ça représentait pour moi une femme qui était un peu hystérique. Donc j'avais beaucoup de mal à me revendiquer comme telle. Mais je disais que j'étais pour l'égalité des genres. Puis petit à petit, je me suis de plus en plus renseignée. Je pense qu'aussi le fait d'être en droit, d'avoir un enseignement universitaire, voilà, ça m'a amenée à me renseigner sur ça. Et puis j'ai commencé par le féminisme parce que, voilà, en tant que femme blanche relativement privilégiée, la misogynie et le patriarcat, c'était le seul problème auquel moi j'étais soumise.
Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont toujours essayé de m'éduquer à l'extérieur de ce qu'on nous apprend à l'école et qui, par ailleurs, sont très attachés à tout ce qui est l'affirmation noire, l'affirmation africaine. Ce qui fait que depuis que je suis toute petite, j'ai eu la chance d'avoir des modèles noirs. J'ai eu des poupées noires. Je dis ça comme si c'était banal, mais j'ai eu énormément de représentations. Ce qui fait une énorme différence, je l'ai remarqué après, parce que les Barbies, c'est le critère de beauté quand on est petite. Ça m'a fait me rendre compte qu'en fait, quand j'étais petite, par exemple, je rêvais pas d'être blonde aux yeux bleus et d'avoir les cheveux longs et lisses, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui m'a aidée plus tard pour me déconstruire, parce que du coup, j'avais déjà pas le critère de beauté que la norme française impose.
Par la suite, je suis partie en journalisme. En plus, je suis arrivée dans ce cursus-là au moment où le mouvement MeToo a vraiment explosé sur Twitter. Donc pareil, là, ça a été un nouveau tournant. Et puis en dernière année, j'ai eu la chance de faire une grande enquête sur l'afroféminisme. Donc le féminisme des femmes afro-européennes et notamment françaises. Et là, ça a été un vrai déclic, un vrai tournant. Parce qu'en l'espace de quelques mois, j'ai pris conscience qu'en fait, ce que j'appelais mon féminisme, etc., c'était l'arbre qui cachait la forêt et que en fait, je connaissais qu'un tout petit angle de tous ces concepts et de tous ces mouvements en France. À ce moment-là, ma plus grande source d'éducation, ça a été les réseaux sociaux. Ça a été Twitter, Instagram, où j'ai commencé par chercher des comptes afroféministes, antiracistes, les comptes décoloniaux, etc., etc. Et puis j'ai découvert que ce mouvement afroféministe était profondément inclusif. Des pages qui parlaient et qui éduquaient gracieusement sur la non-binarité, la transidentité, l'homosexualité, etc. Mais j'ai aussi eu la chance d'avoir à ce moment-là deux personnes dans ma classe, en l'occurrence un homme métis et une femme noire. Et je pense que sans eux, j'aurais commis des erreurs et des écarts énormes dans ma manière, par exemple, de m'exprimer ou dans les questions que je posais, parce que j'ai eu la chance de leur poser d'abord à eux, et c'est eux qui m'ont corrigé, qui m'ont appris certains termes, certains vocabulaires. J'ai eu cette chance-là, voilà, d'avoir des gens autour de moi qui ont pris le temps et l'énergie, qui sont deux choses très précieuses et dont les militants manquent cruellement.
Moi, j'ai de la chance de, par exemple, de pas être confrontée au racisme direct très tôt, en fait. J'ai toujours été dans un univers mixte, donc dans un univers où tout le monde cohabitait avec tout le monde. Mais en tant que femme noire, tôt ou tard, à un moment, va falloir passer par cette déconstruction. Sinon, on ne s'aime pas. On n'aime pas sa communauté et on rejette, en fait. Et on ne peut pas être à l'aise avec soi, avec les normes sociales, parce que finalement, les normes sociales, elles sont pas faites pour nous. Que ce soit au niveau de la beauté, au niveau de l'intelligence, au niveau de la culture, au niveau de la danse. On nous ramène à quelque chose qu'on n'est pas toutes. C'est-à-dire qu'on doit déconstruire les autres, et pour déconstruire les autres, on doit être un minimum déconstruit soi-même. En fait, grandir, c'est se déconstruire pour moi. C'est aussi simple que ça. Grandir, c'est se déconstruire.
Lorsque l'on parle généralement des réseaux sociaux, il est rare d'entendre parler du militantisme sur ces plateformes. Tous les jours, des milliers de personnes se partagent des informations et du savoir afin d'être toujours plus woke, sous-entendu éveillé, déconstruit. Twitter ou Instagram deviennent alors des safe spaces, un endroit où chacun peut évoluer sans être exposé aux discriminations ou au harcèlement.
Moi, j'ai eu la chance de me déconstruire tôt, mais il y a aussi quelque chose qui rend la déconstruction obligatoire, c'est les réseaux sociaux, en fait, parce que maintenant, il y a tout, il y a vraiment tout et n'importe quoi, bien sûr, mais du coup, on est dans un monde où il n'y a plus un seul modèle, une seule ligne éditoriale pour l'information, avec des réseaux comme Twitter. On n'est même pas obligé de suivre des pages pour être informé sur des choses. La première arme de la lutte, c'est la connaissance. Et il n'y a personne qui peut dire je ne connais pas autant des réseaux sociaux, en fait. Ou si on ne connaît pas, c'est qu'on ne veut pas connaître.
Je crois que l'un des messages le plus choquant que j'ai reçu, c'était un homme qui me commentait, mais qui me disait que, fallait être honnête, si j'étais féministe, c'était pour sûrement combler un manque d'attention ou d'affection, parce que j'étais en réalité plus belle que la majorité des femmes, plus intelligentes, etc. Donc je faisais ça pour éviter d'être jalousée. Je développais une empathie presque hypocrite, apparemment, voilà, pour me trouver des copines filles et pas me sentir différente, hors de la norme, parce qu'une féministe est évidemment une hystérique poilue qui ne prend pas soin d'elle, qui a les cheveux bleus ou des choses comme ça. Enfin. Et la force des réseaux sociaux à ce niveau-là, je pense que ça a été de me donner parfois une safe place, parce qu'à la fin de la journée, quand on s'est fait embêter par un certain nombre d'hommes ou même de femmes qui comprennent pas, eh bien, ça m'a vraiment fait du bien parfois de juste ouvrir mon Insta ou ma télé Twitter et tomber sur des posts qui défendaient les mêmes choses que moi, avec des mots bienveillants, ou même parfois de voir des petites nouvelles positives qui montraient que enfin, je menais pas ce combat pour rien et que j'étais pas la seule. Les réseaux sociaux, ça m'a aussi permis de mettre des mots sur des choses que je vivais et de comprendre que c'était une expérience collective. Mais ça a aussi eu le mérite parfois de remettre les choses dans l'ordre en montrant que, évidemment, j'avais des problèmes liés à ma condition de femme, mais que j'avais aussi l'avantage d'être blanche et que ça m'enlevait tout un tas d'inconvénients que peuvent vivre les femmes qui sont à l'intersectionnalité. De la cause féministe et de la cause antiraciste.
Tout ce qui va autour des questions noires, c'est les réseaux sociaux qui ont donné de la force. Avant ça, médiatiquement, on est zéro. Culturellement, la sous-représentation des noirs et des femmes noires, genre, dans toute leur complexité et pas seulement des light skin et des choses comme ça, c'est zéro. C'est la création, entre guillemets, de Black Twitter, des trucs comme ça, qui ont commencé à donner du pouvoir à tout ça.
Ça nous paraît tellement évident quand on s'éduque, enfin moi c'est ce qui s'est passé pour moi en tous les cas, que j'arrivais plus à comprendre pourquoi mon entourage proche ou un peu moins proche ne concevait pas les choses comme ça, ou qu'après que je leur ai expliqué, ne commence pas à avoir la même prise de conscience que moi.
Comment réagir aux questionnements et remarques désobligeantes de son entourage non déconstruit? Peut-on même rester ami ou en couple avec eux? Ces relations nouvelles entre confrontation et rupture.
Je sais qu'avec mes parents, ça a été source de conflits parfois. Avec ma grand-mère, ça a été tout bonnement impossible. Parce que voilà, il Il y a eu simplement, par exemple, cette étape de... Voilà, je fais une enquête sur l'afroféminisme et c'est le féminisme des femmes afro-européennes. Et puis, 2 secondes après, elle me disait, oui, mais les femmes en Afrique, ça n'a rien à voir. Oui, mais mamie, c'est des femmes noires qui vivent en France et qui sont françaises. Puis aussi, j'ai eu droit aux blagues. Ah, mais dis pas ça, parce que Pauline, la féministe, elle va finir par nous dire ci ou ça. Et en fait, la seule conséquence de cette blague, c'est d'infantiliser le mouvement qui a quand même une résonance politique.
Et ça, ça peut être très violent de se prendre des... Ah, mais de toute façon, c'est Chani qui parle. Enfin, que ce soit le féminisme, l'afroféminisme, les violences policières. Enfin, voilà, j'ai des hypersensibilités dessus. Mais ça ne veut pas dire que je suis trop woke ou que voilà, j'ai moins mon mot à dire. C'est pour ça que moi, je pense que c'est vraiment nécessaire de se créer un safe space. C'est ça le point principal, je pense. On ne peut pas être déconstruit et marcher avec des gens qui ne sont pas déconstruits. En tout cas, je sais qu'en ce qui me concerne, c'est quelque chose que je peux plus faire.
Tout ça, je pense qu'aujourd'hui, ça m'amène à être un peu plus attentive lors de nouvelles rencontres, que ce soit au niveau amical ou amoureux. J'ai plus envie de m'imposer cette fatigue-là. J'ai envie de pouvoir juste profiter de moments et d'expériences sans toujours à devoir éduquer la personne. Ou alors simplement, j'ai pas envie de devoir... prouver quelque chose à quelqu'un.
Se retrouver seule, déconstruite, entre guillemets, dans une société, c'est l'une des expériences les plus violentes qu'on puisse vivre. Et c'est quelque chose que moi, je me suis arrangée pour ne plus vivre. Je ne traîne plus, entre guillemets, avec des gens qui ne sont pas déconstruits. C'est-à-dire que bien sûr qu'on peut avoir des débats sur des choses, qu'on n'a pas les mêmes visions sur tout, mais... je sais qu'on est au moins sur le même référentiel qui est de base que les normes sociales ne s'appliquent pas à tout le monde. Par exemple, les remarques racistes que j'ai pu vivre, je pense que c'est en prépa. Par exemple, en soirée, ils commencent à chanter des chants coloniaux parce que c'était au programme, mais ils ont étudié des chants coloniaux. Donc, ils les ont appris par cœur après parce que ça les a fait rire. Sachant qu'ils font référence à d'autres événements où la prof d'histoire même, je ne sais pas si elle chante avec eux, mais en tout cas, elle était présente et elle les a entendus. Et on fait fi donc des personnes non blanches qui sont concernées au plus haut chef par cette histoire coloniale parce que eux, tu comprends, ils ont étudié ça, donc ils savent que ils savent les moindres aspects de la chose. Et en fait, quand tu te retrouves dans cette situation... Et quand après, on te reproche de ne pas rire, on te dit « mais c'est une blague, ça va, on rigole », en fait, t'as juste plus les mots, quoi. Là, c'est même plus... Enfin, c'est fort, quand même. Il y a l'exemple aussi de... je suis sortie avec un gars dans cette prépa. Celui qui me vient en tête, c'est les 3-4 fois où il a fait une blague, la même blague. En disant je sors avec toi pour les quotas, sachant que dès la première fois j'ai pas rigolé, encore à la limite ce serait passé s'il l'avait fait qu'à moi, mais à chaque fois c'était en société et à chaque fois les rires autour de moi m'ont fait dire mais ça me fait pas rire moi et je suis la principale concernée. Et qui fait que du coup instinctivement maintenant avec l'instinct de survie je me suis entouré que de gens qui j'espère en tout cas qui ne sont pas capables de me mettre dans ce genre de situation et de me faire ressentir cette solitude dans la déconstruction.
Les notions de communautarisme et même de séparatisme font débat. Mais ne serait-ce pas qu'un mécanisme de défense, un moyen de se protéger de toute attaque discriminante? Merci à Chanilei et Pauline pour leur éclairage. Moi c'est Sofiane et vous avez écouté Sample, le podcast qui mixe la parole des jeunes pour une meilleure écoute de notre époque.